Bien, ben bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie à la fois les intervenants et toutes les personnes qui sont réunies dans cette salle d'être venues. Je voudrais dire un mot d'introduction en tant que président de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, un petit peu sur le pourquoi, du comment de cet événement. D'abord par une attache historique, puisque la Fondation a, pendant plusieurs années, grâce à ses donateurs, eu une action vis-à-vis du monde intellectuel à l'est de l'Europe, qui a permis notamment de tisser des liens et des mobilités par-dessus ce qu'on appelait à l'époque le mur de Berlin. Et donc on est très attaché, même si évidemment le contexte a complètement changé, très attaché à cette histoire. Et aujourd'hui, peut-être que les murs se sont déplacés, n'ont pas pour autant disparu. Donc nous continuons ce type d'action avec des mondes intellectuels et académiques dans d'autres régions du monde. Et je dois dire que ce lien historique, malheureusement, nous rappelle que ces difficultés n'ont pas disparu. Et puis aussi parce que c'était l'occasion pour nous, à notre manière, grâce à l'énergie mise par Jérôme Heurtaux, de commémorer un événement qui était un autre espoir, qui était celui de l'élargissement, donc des 20 ans de l'élargissement de l'Union européenne, alors que nous sommes en pleines élections européennes, donc un double titre d'organisation de cet événement. Et je dois dire que c'est aussi une période particulière de l'histoire de l'Union européenne, en ce sens que la réflexion pourrait nous amener à considérer que les mondes intellectuels, académiques, artistiques ne sont plus aussi certains des promesses qui avaient été faites à l'époque d'une liberté. Dans l'Union européenne, la liberté s'exprime principalement par la liberté de circulation des personnes, des services, des capitaux, mais aussi tout simplement les libertés fondamentales, la liberté d'expression. Et on est dans un contexte dans lequel cette question se pose à nouveau de manière très concrète. Et je, là aussi, dois dire que c'est pas simplement pour nous une manière de toujours revenir aux questions académiques, mais aussi de penser à travers les difficultés que rencontre le monde académique dans différents pays, le monde intellectuel, le monde artistique, aux difficultés plus générales qui sont celles de l'expression des opinions, de l'expression de toute forme de personnalité, donc de toute forme de valeur, de toute forme de projet, de toute forme de discussion. Voilà, donc c'était à ce titre qu'on a confié un petit peu à Jérôme Heurtaux, que j'ai le plaisir d'introduire, mais qui va présenter les intervenants sans doute. Avec Martha Craveri, donc l'organisation de cet événement. Voilà.
Merci. Merci, monsieur. Je vais utiliser, je pense, ce micro. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais réduire la mienne d'autant. Merci à vous d'être présente pour cette conférence débat consacrée aux libertés, à l'état des libertés en Europe de l'Est et Europe centrale, donc 20 ans après l'élargissement de 2004, alors que se profile l'adhésion de plusieurs États, dont l'Ukraine, mais aussi la Moldavie et la Géorgie. Il va beaucoup être question, en effet, de libertés académiques ce soir, mais aussi libertés politiques, liberté scientifique, liberté médiatique. Et il se trouve, et j'en profite pour me présenter très brièvement, que je reviens d'une manifestation pour la défense de l'audiovisuel public. Ici en France, je travaille à France Culture où je produis une émission qui s'appelle Culture Monde. J'y ai présenté cette semaine une série sur l'audiovisuel public en Europe et l'état de l'audiovisuel public en Europe. Alors on aurait pu parler de la Slovaquie, on aurait pu parler aussi de l'Europe de l'Est. Il se trouve qu'on s'est concentré sur l'Europe orientale, mais des invités nous ont dit au cours de cette série aussi que le libéralisme à outrance, et Margaret Thatcher notamment au Royaume-Uni, mais pas seulement, avait fait certainement autant de mal à long terme à l'audiovisuel public que n'en ont fait les pouvoirs conservateurs et l'extrême droite quand elle prend le pouvoir. Voilà, on ne peut pas tout comparer, mais en tout cas sur certaines questions de liberté, il se trouve que ce sont des mouvements qu'on a pu observer en Europe de l'Est, où le processus d'extension des libertés après la chute du communisme, le grand bouillonnement intellectuel de l'époque, a laissé la place aussi à une libéralisation de la recherche, une rationalisation des universités, qui semble aussi avoir pavé la voie d'un contrôle politique en quelque sorte. Et ce sont des choses qu'on va évoquer ce soir notamment. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Hongrie, toujours dirigée par le Fidesz de Viktor Orban, en Pologne, où le PiS, le parti Droit et Justice, n'est plus au pouvoir après la victoire de la coalition d'opposition menée par Donald Tusk, qui est aujourd'hui Premier ministre, mais qui a donc l'intention de dépolitiser la Pologne et qui, pour ce faire, emploie aussi des méthodes qui posent question aujourd'hui. Comment l'Ukraine, qui n'a jamais été aussi proche de franchir la porte de l'Union européenne, peut se projeter dans cette idée de liberté que représente l'Union européenne? Voilà, ce sont toutes ces questions et beaucoup d'autres qu'on va évoquer avec nos invités. Donc Jérôme Heurteau, qui est politiste, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine et qui a coordonné l'ouvrage qui est à l'honneur ce soir, « Pensée captive, répression et défense des libertés académiques en Europe centrale et orientale et au-delà », parce qu'en effet, il y a des contributions sur la France, sur le Maroc, sur la Russie. On peut peut-être d'ailleurs faire circuler au cours de la rencontre le livre pour que vous ayez une idée de ce dont il retourne. Ce sont des contributions pour les 30 ans du CEFRES, le Centre français de recherche en sciences sociales qui a été créé en 91 à la chute de l'URSS à Prague. Et voilà, c'est une recension de ce qui a été dit à l'époque. Vous avez donc été directeur à Prague du CEFRES, comme vous aussi l'avez été Clara Royer, qui est professeur de culture d'Europe centrale à la Sorbonne Université. Vous êtes aussi scénariste, vous avez coécrit Le Fils de Saul qui a été réalisé par le cinéaste hongrois Laszlo Nemes, j'ai toujours peur de mal prononcer, qui avait eu le grand prix du jury à Cannes en 2015. Et comme un passage de témoin, on élargira la discussion à l'Ukraine avec Alexandra Goujon, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Bourgogne et qui a écrit L'Ukraine de l'indépendance à la guerre aux éditions du Cavalier Bleu. Voilà, Jérôme Heurteau, je vous laisse commencer à introduire cette rencontre, puisque le livre que vous avez coordonné explore à la fois les recompositions de la recherche en Europe centrale après 89, les effets paradoxaux du processus d'intégration à l'Union européenne et cette reprise en main autoritaire en Pologne et toujours en Hongrie. Mais surtout, vous avez ce point commun tous les trois de pouvoir nous raconter de l'intérieur tout ce qui s'est passé après l'intégration. Vous avez tous les trois vécu dans les pays dont vous parlez. Je vous laisse commencer.
Non, maintenant c'est mieux, je crois. Merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté déjà de modérer ce débat. Donc, vraiment, merci. Surtout aujourd'hui, vous êtes en grève. On ne dira pas au-delà de c'est mieux. Merci vraiment d'avoir fait cette petite entorse, mais je crois que c'est pour le bien commun, parce qu'effectivement, il y a énormément de choses à penser ensemble, puisque l'une des stratégies de ces différents pouvoirs, notamment le PiS en Pologne, ça a été précisément de refonder l'audiovisuel public dans une même institution avec tous les effets que ça a pu provoquer. Je voudrais d'abord remercier bien sûr Antonin Cohen pour son introduction qui est là. Merci beaucoup Antonin d'avoir organisé d'avoir parrainé cette soirée, et puis en particulier Martha Kravry, parce que c'est en fait tous les deux qu'on a travaillé conjointement depuis plusieurs semaines. Donc vraiment merci Martha d'avoir été la co ou même la principale organisatrice de cette soirée. Alors moi je voudrais partir d'une réflexion que j'espère vous partager, peut-être que vous ne la partagez pas, mais il me semble quand même que 20 ans après l'adhésion de ces pays à l'Union européenne, on la célèbre peu, voire pas du tout, et que cet événement est en quelque sorte invisibilisé, à la fois dans les sociétés centre-européennes, mais aussi, par exemple, en France ou bien en Allemagne. Alors pour des raisons qui s'expliquent, hein, Notre attention est focalisée sur d'autres enjeux. Il y a évidemment la guerre en Ukraine, il y a évidemment la guerre à Gaza, il y a l'imminence des élections européennes. Mais il faut quand même, à mon avis, interroger ce relatif silence sur cet événement, sur la commémoration ou la non-commémoration de cet événement, qui me paraît assez paradoxal, et d'autant plus paradoxal que précisément la guerre en Ukraine, au fond, a redonné de la force à l'idée d'un nouvel élargissement, et qu'en plus, cette idée d'un nouvel élargissement, on sait que beaucoup de ces gouvernements centre-européens y sont pour quelque chose, et en particulier la Pologne. Donc on aurait pu s'attendre à une célébration, au fond, beaucoup plus enthousiaste de ce 20e anniversaire. Alors que signifie cet apparent silence? Comment expliquer cette discrétion? Pourquoi cet anniversaire ne prend pas la forme d'une fête de la liberté, puisque l'Union européenne est très souvent associée précisément à un ensemble de libertés? Je voudrais répondre à cette question en évoquant deux dimensions, à mon avis, très importantes. Je voudrais revenir d'abord sur ce qu'ont été, au fond, les ambivalences de l'intégration européenne dans ces différents pays. Et puis aussi parler de la vigueur des offres politiques conservatrices, leur succès dans plusieurs pays depuis une quinzaine d'années. Et puis, si j'ai le temps, je développerai le cadre des libertés académiques pour parler un petit peu quand même de l'ouvrage qui circule et qui, j'espère, vous intéressera. Alors d'abord, les ambivalences de l'intégration européenne. De quoi parle-t-on? En revenant quand même sur l'événement lui-même, donc c'était il y a 20 ans, l'UE procédait à son 6e, je crois, élargissement, le plus grand de son histoire, puisque 10 pays ont rejoint l'Union européenne. Alors, il y a les 3 pays baltes, et puis il y a des pays d'Europe centrale, République tchèque, Slovaquie, Pologne et Hongrie, et puis, on l'oublie souvent, Chypre et Malte aussi, qui entrent dans l'Union à ce moment-là, et la Slovénie. Et puis, vous savez, l'autre, disons, ce qui restait en quelque sorte de cette région d'Europe centrale orientale, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, entreront en 2007. Alors depuis la France, il me semble qu'on se représente cet événement et ses adhésions de façon finalement assez naïve autour de 3 idées forces. D'abord l'idée d'une logique de l'histoire. Après avoir recouvré la démocratie en 89, ces pays, le retour à l'UE de ces pays, enfin en tout cas le retour à l'Europe à travers l'UE de ce pays était considéré comme évidente et nécessaire, elle l'est toujours. Deuxième idée, l'idée selon laquelle les sociétés est-européennes partageaient un désir fou d'Europe. Qu'il s'agissait pour eux d'une priorité absolue. Puis la troisième idée, plus insidieuse à mon avis, c'est celle d'une vision qui, à mon avis, est aujourd'hui très écornée, peut-être moins forte qu'avant, mais qui demeure aujourd'hui, la vision d'une asymétrie légitime depuis les pays occidentaux, depuis l'Occident de l'Europe, entre les États membres historiques, qui sont des contributeurs nets, et ces newcomers encore gauche des années 2000, qu'on acceptait au fond à la table un peu comme un voisin, un lointain cousin de province qu'on accepte au repas, mais à la condition qu'ils n'en demandent pas trop. Or, il me semble que c'est l'inverse qui s'est produit. D'abord, l'histoire de l'adhésion, c'est celle d'un processus pas du tout évident, pas du tout naturel, de retour à l'Union dans le giron européen. C'est un processus qui a été long, complexe et parfois conflictuel, qui est passé par plusieurs étapes. Alors, je rappelle ce vocabulaire parce que peut-être qu'à l'occasion de l'entrée probable de l'Ukraine dans l'Union européenne, on reviendra à ce vocabulaire. Accord d'association, stratégie de préadhésion, reprise de l'acquis communautaire, critères de convergence, négociation d'adhésion. Je suis sûr que beaucoup de gens se rappellent un petit peu de ce vocabulaire, cette sémantique de l'intégration qui a disparu. Ratification par référendum ou non. Adhésion, enfin. Donc c'était un long chemin bureaucratique, parcouru parfois à marche forcée. Et en somme, l'adhésion est devenue au fil du temps de moins en moins inévitable, non en raison d'un simple sens de l'histoire, mais par des effets de cliquet, des passages de seuil qui rendaient au fond l'aboutissement quasiment nécessaire. Deuxièmement, si l'entrée dans l'UE s'est imposée comme un projet souhaitable, il ne faut pas oublier, d'une part, que le désir de protection des frontières, de l'intégrité territoriale, était sans doute premier, c'est-à-dire avant même des demandes d'adhésion à l'UE, puisque, on le sait tous, et il faut quand même le rappeler, l'adhésion à l'OTAN a largement précédé celle de l'Union européenne. Pour la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, c'est 1999. Je me souviens d'un texte qui a beaucoup marqué l'analyse des fameuses transitions post-communistes qui avait été écrit par un universitaire qui s'appelait Klaus Hoffe, dans la Revue française de sciences politiques. Parfois, il y a des articles dans la Revue française de sciences politiques qui méritent d'être lus, et qui parlait de la triple transition après 89. Il disait, en gros, certes, c'est le passage à la démocratie libérale, donc c'est l'adoption de l'économie de marché, c'est l'entrée dans la démocratie, mais c'est aussi et sans doute surtout le recouvrement de la souveraineté. Et ça, je crois que c'est un point qu'on a tendance souvent à minorer, disons, lorsque, depuis cette partie occidentale de l'Europe, on regarde ces processus d'adhésion. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a compris, en particulier depuis l'invasion, pardon, de l'Ukraine par la Russie. Et de fait, les promesses de prospérité qu'incarnait l'adhésion étaient sans doute aussi, à la fois peut-être moins importantes que les attentes de sécurité, et en même temps plus importante sans doute, ou aussi importante, disons, que les promesses de liberté. Donc l'approche de l'Union européenne par les sociétés est-européennes était tout sauf simplement politique, symbolique, en regard d'une nécessité historique. Je pense qu'elles étaient aussi stratégiques, donc il faut les regarder comme eux, c'est-à-dire sans naïveté. Enfin, les sociétés est-européennes, je crois aussi, et leurs représentants, ont très tôt montré qu'ils refusaient des rapports asymétriques, en refusant le caractère parfois vertical de cette adhésion. Et puis, certains dossiers de négociation ont suscité d'âpres négociations très conflictuelles, notamment, on l'a oublié aujourd'hui, mais les questions agricoles et les questions régionales. Alors, bien sûr, je ne nie pas du tout ce qu'a représenté cette adhésion. Et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, Julie, en le rappelant, nous avons tous vécu dans ces sociétés que nous avons eu plaisir à étudier et en même temps à connaître. Et moi, j'étais en Pologne entre 2001 et 2003. D'ailleurs, je représentais le HESS, qui avait créé là-bas un atelier de formation à la recherche en sciences sociales pour soutenir la coopération universitaire, la jeune recherche aussi avec ces pays. Et je me souviens très bien de l'importance de l'enjeu de l'adhésion pour ce qu'était la Pologne de l'époque. Tous mes amis, par exemple, connaissaient le nom du commissaire européen à l'intégration, qui faisait parfois la une des journaux. Alors, c'était impensable, à l'époque en tout cas, pour un jeune Français, de voir le nom de Günther Verhoeven, qui était devenu une personnalité politique de premier plan et que tout le monde, évidemment, ignorait en dehors de ces pays. Alors, qui connaît aujourd'hui le nom du commissaire à l'élargissement actuel ? Alors, il faudrait qu'on le connaisse parce qu'il s'appelle Olivier Varellis, un diplomate hongrois, qui a d'ailleurs participé aux négociations sur l'entrée de la Hongrie, mais qui est sur une ligne Orban, d'ailleurs, forcément représentant du gouvernement actuel. Et puis, pour la petite histoire, qui n'est pas une petite histoire, c'est lui qui a proposé de supprimer toute aide humanitaire aux Gazaouis. Mais on ne va pas s'embarquer, sans doute, sur ce sujet ce soir. En tout cas, la partie du livre, il y a une partie dans le livre qui porte sur l'histoire du CEFRES, donc cet UMIF, cet Institut français de recherche à l'étranger qui est basé à Prague et qu'on a eu le plaisir tous les deux, mais pas en même temps. Je ne suis que le modeste successeur de Clara Royer de diriger. Et le CEFRES, dans ce livre, il y a des contributions d'anciens responsables du CEFRES qui racontent comment les sujets européens, toutes les questions liées, toutes les thématiques liées à l'intégration européenne sont petit à petit, ont fait irruption en quelque sorte dans les agendas de recherche. Ce que je voulais dire ici, c'est que les processus sociaux et politiques sont souvent plus âpres que les souvenirs que l'on peut avoir, surtout quand on ne les a pas vécus. Et je dirais que l'idée d'un retour à l'Europe était évidemment bien présente, mais sans cesse articulée à des raisonnements stratégiques qui sont tout à fait légitimes par ailleurs. C'est ce qui explique, à mon avis, pourquoi les perceptions de l'Union européenne en Europe centrale sont complexes, plurielles, voire ambivalentes. Alors, je donnerai quelques éléments pour l'attester, mais prenons les référendums d'adhésion, par exemple. Ils ont été très largement positifs. Par exemple, en Slovaquie, le référendum d'adhésion de 2004 a été approuvé par 92,5% de participants, ce qui est évidemment une sorte de plébiscite pour l'Europe. Mais la participation était très décevante, 52,1% de participation, et certains référendums ont failli ne pas être valides parce qu'il fallait qu'il y ait au moins 50% de participation. Aux élections européennes, les premières en Slovaquie de 2004, donc juste après, on a une participation de 16,9% des électeurs. Donc, d'emblée, si vous voulez, cette espèce d'enthousiasme européen, bon, il suscite immédiatement, en quelque sorte, des anicroches. On a vu aussi se développer partout dans la région des offres politiques eurosceptiques, j'y reviendrai, des usages politiques critiques de la bureaucratie européenne et des approches stratégiques de la participation européenne. Alors, il y a un sondage qui vient de paraître en Pologne que je trouvais très intéressant, je crois au mois d'avril, sur ce que deviendraient... Donc les Polonais ont été interrogés sur ce que deviendrait pour eux... quel serait leur soutien à l'Union européenne, ou plutôt... Quel est leur avis sur la participation de la Pologne à l'Union européenne, le maintien de la Pologne dans l'Union européenne, au moment où, parce que ce moment va arriver, la Pologne va passer d'un statut de bénéficiaire net à contributrice net, parce que ça va arriver. Alors 59% des personnes interrogées pensent qu'il faut rester, car, disent-ils, les bénéfices excèdent le seul avantage financier. 30% souhaitent en sortir. Et puis après, il y a des indécis, bien évidemment. Si on regarde les électeurs du PiS, le Parti droit et justice, c'est un électeur sur deux qui considère que dès lors que la Pologne ne serait plus bénéficiaire de l'Union européenne, il faudrait sans doute songer à la quitter. Et ce taux est plus fort à mesure que on le mesure dans les partis, disons, situés plus à droite encore, puisque c'est possible que le PiS. Tout cela explique aussi cette postérité en quelque sorte ambivalente de l'événement de l'adhésion. C'est certes un événement globalement perçu comme positif, mais qui est évidemment bien différent hein, de tous les événements qui ont marqué tragiquement l'histoire de ces pays, combien d'invasions étrangères, combien de situations de guerre, l'emprise soviétique, les défaites militaires, les dépassements de frontières. Donc par rapport à ça, évidemment, c'est un événement tout à fait considérable. Mais je dirais qu'il a eu du mal à trouver sa place dans, disons, on y reviendra peut-être, mais dans la mémoire collective, ou en tout cas dans la manière dont les politiques constituent cette mémoire collective, très largement centré sur à la fois la sortie de guerre, 1945, et sur 1989. Alors ça, c'était mon premier point. Je me rends compte que j'étais trop long déjà, sans doute. Bon, ah bah tant mieux. Alors je continue. Donc je voulais aborder un deuxième point qui, à mon avis, explique aussi en grande partie cette situation d'invisibilisation de cet événement. C'est la vigueur et le succès dans certains pays de ces fameux partis politiques, mouvements politiques conservateurs et on peut le dire comme ça aussi, liberticides. Alors ce phénomène est bien connu, il a ses acronymes connus, hein, la Fidesz en Hongrie, le PiS en Pologne, etc. Ces figures iconoclastes, Viktor Orban, Jarosław Kaczynski en Pologne, Robert Fico en Slovaquie, Andrzej Babis en République tchèque. Leur succès, leur longévité au pouvoir sont frappants. Orban, il faut le rappeler, est au pouvoir depuis 2010. Alors, il est vrai, comme vous l'avez rappelé, que le PiS n'est plus au pouvoir en Pologne, mais enfin, les effets de la politique menée pendant 8 ans se font encore sentir. Ils sont en réalité très, très difficiles aujourd'hui à contrecarrer. Une fois au pouvoir, ces partis donc, développent des politiques de type autoritaire. Alors, ils ont des éléments en commun et puis, évidemment, ils ont des différences. Alors, les éléments en commun, ce sont des rhétoriques souvent similaires, des appels répétés au peuple, on parle parfois de populisme, la disqualification des élites en place, l'anticommunisme qui est, disons, réactualisé, des critiques très fortes des modalités même de la transition post-communiste, et puis une narration critique de ce qu'on appelle parfois le consensus libéral post-89. On promeut aussi des valeurs familiales, valeurs chrétiennes, en Pologne en particulier, des discours d'hostilité à l'égard des minorités, en particulier LGBT, contre ce qu'ils appellent aussi, et ça c'est un des aspects là, du narratif conservateur, les théories ou les idéologies du genre, on sait pourtant que ce ne sont pas des idéologies, etc. Certains auteurs ont pu parler de révolution conservatrice hein, pour qualifier ces processus. Ils développent aussi des pratiques de pouvoir assez comparables en s'attaquant au personnel judiciaire en particulier. En Pologne, par exemple, entre 2015 et 2023, 30 lois ont réformé la justice. Alors, je n'entre pas dans les détails, on pourrait y revenir. Le secteur des médias, vous l'avez rappelé tout à l'heure, n'a pas échappé à ce travail de sape. La télévision publique... dans les deux pays est devenu un instrument de communication du pouvoir. Et donc, oui, tous les pays européens, à mon avis, ont la chance, enfin, pardon, devraient avoir la chance de conserver un pluralisme des médias, y compris dans le secteur public, car même si c'est le secteur public, se maintiennent des différences. Et en cas, évidemment, de prise de pouvoir par un régime autoritaire, ça faciliterait bien évidemment la diffusion d'une doxa politique si ces médias étaient réunis dans une même structure financière et institutionnelle. Alors évidemment, il y a des différences entre ces pays, en termes de politique sociale, par exemple, en termes de politique économique, mais aussi en termes de politique étrangère. On a vu d'ailleurs combien l'alliance entre la Pologne et la Hongrie a éclaté depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce que on avait d'un côté un pays, la Hongrie, plutôt proche de la Russie, pour des raisons que peut-être Clara rappellera, et puis une Pologne très très hostile à la Russie. Et on retrouve d'ailleurs cette division aujourd'hui, puisque la Slovaquie et la Hongrie se retrouvent au fond très très proches dans leur rapport à la Russie. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que l'un des points communs de ces offres politiques et de ces partis au pouvoir, c'est une critique de l'Union européenne et du libéralisme politique qu'incarne à leurs yeux l'Union européenne. Alors, ce n'est pas une hostilité vis-à-vis de toutes les libertés, hein, puisqu'on est là pour parler des libertés. C'est une critique des libertés qui renvoie à l'image d'une société permissive, l'égalité des sexes, l'extension des droits LGBT, la critique à travers la culture, le pluralisme scientifique. Au fond, tous ces symboles de liberté incontrôlable. Par contre, ce sont des régimes qui défendent d'autres formes de liberté, et notamment la liberté à décider de manière souveraine en matière d'immigration, en matière de politique environnementale, en matière idéologique également. Alors, comment expliquer ce phénomène, ces phénomènes ? Il y a globalement deux thèses qui s'affrontent. Il y a une thèse qui insiste sur les effets de longue durée. Donc, en fait, ces fameux populismes conservateurs d'aujourd'hui ne seraient que des actualisations ou des avatars d'un populisme de longue durée. Puis, il y a une autre approche qui insiste davantage sur le fait qu'ils sont le produit, en fait, de la crise du post-communisme, quoi, pour aller très, très vite. Moi, je dirais que c'est un petit peu des deux et qu'on pourrait les comprendre en articulant trois éléments centraux que j'avais prévu de développer, mais je ne vais pas développer, parce que là, je sens quand même que je m'approche. Voilà, c'est ça. Donc, les héritages de l'histoire, je reviendrai peut-être là-dessus, parce que, évidemment, dire ça comme cela devant Marie-Elisabeth Ducreux, c'est pas très pertinent. Les propriétés de la construction démocratique et des stratégies politiques de circonstances tout à fait efficaces, une capacité de ces leaders et de ces partis à prendre le pouvoir. Donc je ne développe pas, pardon, parce que j'ai pas le temps. Ben oui, j'avais préparé quelque chose, mais oui, mais non, c'est ça, mais je me rends même pas compte.
Mais il y a plusieurs aspects que vous pourrez développer pendant cette discussion.
Donc je ne conclue pas.
Ah si.
Si, je conclue. Alors je conclue en parlant des libertés académiques. Voilà, c'est ça. Voilà. Je parle du livre. Mais oui, mais j'aime pas trop parler de mon livre parce que ça fait un peu.
Oui, bien sûr.
Ça fait un peu promotion. Je vais quand même en parler un petit peu en disant que l'un des aspects de ces politiques, l'une des dimensions de ces politiques conservatrices, ça a été précisément de prendre aussi pour cible les milieux académiques et universitaires. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que des libertés académiques ? Parce que souvent, c'est une expression méconnue. C'est tout simplement, au fond, les droits des universitaires et des chercheurs à chercher, à enseigner, à transmettre leurs résultats de recherche et à s'exprimer dans l'espace public sans contraintes de toutes sortes, ni politiques, ni économiques, ni religieuses, ni bureaucratiques, parce que parfois les libertés académiques sont écornées par nos propres institutions universitaires. La seule limite, c'est la loi, le respect de la loi et la déontologie. Bon. Et à partir de 1989, il est évident, on raconte dans le livre, que l'ouverture à la démocratie, au pluralisme de ces pays a permis un recouvrement des libertés intellectuelles et donc académiques à travers de nouvelles possibilités dont nous avons nous-mêmes profité en tant que jeunes chercheurs, accès à de nouveaux terrains, ouverture des archives, multiplication des collaborations de toutes sortes. La reconnaissance même des libertés académiques s'est faite dans les constitutions de ces pays. Donc il y a eu un changement. Bien. Et l'intégration européenne a renforcé, bien évidemment, ces libertés académiques par un encadrement normatif, une diversification des financements. On a inscrit dans le marbre le pluralisme intellectuel. Mais les gouvernements conservateurs n'ont pas épargné du tout tous les secteurs de la production idéologique, ou symbolique plutôt, donc le journalisme, la culture, l'université, la recherche. Pourquoi ? Parce que tous ces secteurs participent, ou participaient pour eux, de la définition et de l'institutionnalisation de la démocratie libérale, du libéralisme politique. C'est la raison pour laquelle ces espaces de créativité ont été tous la cible. Alors comment ? Dans les milieux académiques, de différentes manières. D'abord par des atteintes de nature politique, puisqu'on a porté atteinte à la définition des objets. Je pense notamment, encore une fois, à la question du genre. Les historiens ont été particulièrement la cible, évidemment, des pouvoirs, puisque les historiens portent aussi un discours critique sur le passé. En Pologne, des spécialistes de la Shoah, par exemple, qui ont travaillé sur un objet pourtant fascinant, qui est la participation des Polonais, enfin, de Polonais, à la Shoah sur le territoire même de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale, ont fait l'objet de dénonciations publiques, de poursuites judiciaires. Je dirais qu'au-delà de ces modalités de contrôle politique sur la recherche, qui ont pris différentes formes, des transformations institutionnelles aussi, de fond, ont concerné ces pays, ces universités et ces recherches, à travers justement un agenda européen de la recherche, de l'enseignement supérieur de la recherche, qui ont permis de se développer, que se développent des réformes au nom d'une modernité libérale. Et il se trouve deux choses. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur un objet comme la liberté académique, ça permet de voir la complexité des choses. Deux choses, et je terminerai là-dessus. D'une part, qu'au fond, en favorisant ces réformes, l'Union européenne a en quelque sorte aussi affaibli le potentiel critique des universitaires, pour le dire très très vite, en transformant des intellectuels en managers. Et c'est vrai que les universitaires centre-européens, me semble-t-il, je l'ai constaté en étant en CEFRES notamment, ont très 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 fortement intégré la question de la bibliométrie, la question de la nécessité de constituer des équipes de recherche financées sur projet par des grants européens. Tout cela, évidemment, a favorisé très, très largement la recherche. Et en même temps, c'est un effet pervers en quelque sorte, a peut-être alimenté aussi une transformation managériale de la recherche qui a peut-être réduit des espaces critiques. La deuxième chose, c'est que les pouvoirs conservateurs eux-mêmes, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, ont utilisé ces réformes libérales au profit d'un agenda conservateur. Je donne l'exemple de la Hongrie qui est tout à fait symptomatique. Par exemple, en réformant l'Académie des sciences hongroise, sous une forme libérale, en quelque sorte, au nom de la nécessaire transformation de ces pachydermes issus de la période communiste, mais pour favoriser en fait un clan de chercheurs proches du pouvoir et en disqualifiant tous ceux qui développaient des approches critiques de la politique ou autre. Donc on a retrouvé l'Europe, au fond, là on ne l'attendait pas.
Et c'est dans les appels à projets, la concurrence des instituts, des laboratoires de recherche, quand un ministère hongrois fait un appel à projet, que se retrouve aussi ce dont vous parlez, cette concurrence et cette guerre entre des chercheurs qui se prétendent indépendants mais qui n'obtiennent pas les financements et ceux qui sont plus proches du Fidesz. En Ukraine, c'est une transition pour vous entendre, Alexandra Goujon, sur l'Ukraine. En Ukraine, la question de l'élargissement est très liée depuis toujours à celle de la liberté. L'Ukraine, depuis 1991 et plus encore depuis Maïdan, n'a cessé de mettre en avant ce récit d'une liberté. Voilà, on retombe sur nos pattes de ce sujet sur les libertés en Europe centrale et orientale. Donc, c'est à vous de l'expliquer.
Merci beaucoup. L'élargissement pour les Ukrainiens, l'élargissement de 2004, ça correspond à des événements bien particuliers. Hein, parce que 2004, c'est la révolution orange. Et en Ukraine, cette révolution orange, elle est encore dans les esprits. Hein. Et je dirais même qu'elle fait suite à une autre révolution qui est beaucoup moins connue, mais qui, après Maïdan, a pris toute son importance. C'est la révolution de granit. Vous allez voir où les modes, hein, on a souvent critiqué les modes d'occupation qui étaient venus de l'Ouest. En fait, c'est Maïdan en 1990, sur cette même place, juste à côté de la statue de Lénine qui après donc a été déboulonnée, il y avait donc des lits de camp où des étudiants donc sont restés plusieurs semaines à faire une grève de la faim et où ils ont obtenu entre autres hein, la démission à l'époque du chef du gouvernement ukrainien. Donc si vous voulez en Ukraine, la mobilisation et y compris j'allais dire dans le statut de guerre, c'est important de l'avoir en tête, la mobilisation sociale paye. On a été victorieux en 90, en 2004 la révolution orange fonctionne et en 2014, Maïdan fonctionne également avec la fuite de Yanukovych. Mais 2004, c'est aussi donc l'élargissement et c'est aussi le moment où l'Union européenne se pose la question de l'après. Et va se mettre en place au sein de l'Union européenne cette fameuse politique de voisinage. Et c'est important parce que il y a une citation que j'aimerais vous donner du président de la commission de l'époque, Romano Prodi. Il y en a plusieurs, mais il y en a une, je trouve, qui résonne et qui va faire écho à ce que disait Antonin Cohen tout à l'heure. Il dit à ce moment-là, il faut absolument qu'on tende la main aux voisins, ce qui ne veut pas dire élargissement, je préciserai, pour éviter un nouveau rideau de fer en Europe. On y est. À l'idée du rideau de fer. Aujourd'hui, par contre, on ne sait pas vraiment où il est, le rideau de fer. Celui que Poutine veut nous imposer, on ne sait pas trop. Il voulait refiler l'ouest de l'Ukraine aux Polonais, mais bon, il y a aussi des prétentions sur la Suède, sur la Finlande. Donc, mais en tous les cas, c'était vraiment la dynamique. Par contre, on n'était pas du tout dans l'idée d'un élargissement. Et alors, c'est intéressant parce qu'après la Révolution orange, Viktor Yushchenko, président, envisage de déposer la candidature de l'Ukraine. Et là, c'est les Européens qui l'en dissuadent. Surtout, ne faites pas. Vous allez peut-être faire comme la Turquie. Vous allez attendre des années avant qu'on vous réponde, si tant est qu'on vous réponde. Et à ce moment-là, l'Union européenne a mis en place, enfin, a justifié en quelque sorte, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait un découplage entre voisinage et élargissement, par une notion qui est la capacité d'absorption. C'est-à-dire qu'on a déjà des élargissements en cours. Hein, tu as parlé de la Roumanie, la Bulgarie. Après, il y a eu la Croatie, le dernier. Mais voilà, il y a un certain nombre de pays de l'ex-Yougoslavie, l'Albanie, etc. Et donc, voilà, on s'arrête là. Mais je reprendrai les trois points que tu as évoqués. Logique d'histoire, désir d'Europe et vision asymétrique. Alors justement, pour les Européens, c'est pas du tout dans la logique de l'histoire. Ils ont complètement intégré la notion de sphère d'influence de la Russie. Donc même s'ils utilisent la capacité d'absorption, l'idée c'est « oulala, pas les mettre nos pieds là-bas ». Donc quand on a souvent dit « oui, Maïdan c'est une erreur, l'accord d'association c'est une erreur », c'est une réponse à une demande beaucoup plus insistante en fait, des Européens qui veulent garder les liens, on va démocratiser, etc., le pays. Il ne faut pas non plus qu'on ait trop d'immigration. Donc, s'il y a du développement économique en Ukraine, ça nous arrange. Mais surtout pas d'élargissement. Donc, quelque part, ça les arrangeait bien. Et je lisais un article récemment, je trouve ça très intéressant, c'est qu'en fait, la guerre russo-ukrainienne, elle brise cette histoire de sphère d'influence russe. Ça y est. On ne sait pas ce que deviendront les pays, mais la notion de sphère d'influence, ou la notion plutôt que les Russes utilisent, d'étrangers proches. Le désir d'Europe, deuxième point, il est questionné. En fait, très souvent, on dit « mais en fait, les Ukrainiens, ils sont pas prêts, mais surtout, est-ce qu'ils veulent vraiment ?» Alors là, on utilise les sondages. Vous voyez, c'est 40, etc. Bon, là, effectivement, du côté ukrainien, on passe à quelque chose qui, après 2014, s'installe à 60%. J'expliquerai pourquoi. Et qui, depuis l'invasion à grande échelle, est passé à au-delà de 80. Bouge pas. Pour l'OTAN, pareil. L'OTAN était en deçà. Hein. L'OTAN, c'était 30% en Ukraine. Hein. On est à 80 aujourd'hui. Pourquoi les Ukrainiens ont compris que l'OTAN, c'était la garantie de sécurité optimum. Alors, la vision asymétrique, elle est totalement assumée. Et je reprendrai, là aussi, ça m'a beaucoup intéressé, le cousin qu'on accepte. Il y a une anecdote de Zelensky très intéressante. Juste avant, quasiment, enfin, entre l'invasion et la décision de l'Union européenne, juste après le dépôt de candidature, je vais dire ça comme ça, de l'Ukraine, qui intervient 4 jours après l'invasion, 4 jours après l'invasion de la Russie, l'Ukraine ne demande plus la permission, hein, Zelensky dépose la candidature du pays à l'UE, hein, 4 jours après. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, bon, c'est bien beau, là, tous vos discours sur la famille européenne, mais il dit, en fait, bah, c'est comme si on est invité à un dîner, on n'a pas de chaise. Et je la trouve très, très intéressante. Très parlante. Bon, c'est un ancien comédien, voire toujours comédien, un très bon acteur, Zelensky. Et donc, pour les Ukrainiens, l'élargissement, c'est quelque chose qui est important à un double niveau. Et ça rebondit d'ailleurs, ça rejoint ce que disait Jérôme sur la question de la souveraineté. Je trouve que c'est très important de le mentionner, c'est-à-dire que la grande différence, là vous me reprendrez, hein, on a du mal à percevoir des pays qui se sont considérés comme sous occupation. Ils n'ont pas tout à fait la même perception de la souveraineté et de l'intérêt national, même si ça ne permet pas de justifier le nationalisme. Hein. Mais tout de même, je pense que c'est extrêmement important. Pour les Ukrainiens, l'Union européenne permet de garantir l'indépendance de l'Ukraine, est un protecteur de souveraineté. Alors, je me projette dans 50 ans, je ne sais pas s'ils auront la même perception. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens, aujourd'hui, avec la guerre russo-ukrainienne, ont une conception double de la liberté. C'est à la fois les libertés politiques, la démocratie, l'état de droit, ce pourquoi ils se sont battus au moment de Maïdan et au moment de la Révolution orange. La Révolution orange, c'est des fraudes électorales, donc c'est aussi toute la question de la compétition politique qui était en jeu, donc une liberté politique, la liberté aussi d'expression. Mais c'est aussi la liberté entendue à la libre autodétermination des peuples. Et donc l'Union européenne, ça permet... Mais j'allais dire, les Polonais avaient peut-être aussi une perception similaire dans les années 90. Hein. D'ailleurs, ça permet d'empêcher d'être soumis à l'envahisseur, aux voisins, etc. Et donc, y a vraiment cette logique de préservation de l'indépendance. Et à ce niveau-là, lorsque les Ukrainiens ont déposé la candidature, donc je le disais, en février 22, hein, la réponse n'a presque jamais été aussi rapide. La réponse de l'Union européenne, elle date de juin, d'acceptation de la candidature de l'Ukraine. Et pour les Ukrainiens, c'est extrêmement important symboliquement, puisque ça veut dire que leur État est reconnu. Parce qu'on en est là quand même. Pourquoi leur État est reconnu ? Parce que jusqu'alors, l'Union européenne était dans... Voilà, on ne sait pas trop l'Ukraine, on parlait beaucoup de fractures. Et la résistance nationale, qu'est-ce qu'elle nous a montré aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous montre, c'est qu'il y a beaucoup plus, en tous les cas pour le moment, de cohésion nationale que de soi-disant de fractures, de divisions, qu'il y a beaucoup de russophones qui sont dans les forces armées ukrainiennes. Et donc, ce pays qu'on a... penser longtemps fracturé, et donc fracturé, ça voulait dire quoi ? Qu'il était impossible de construire un État, et impossible de construire une nation. C'est pour cette raison, d'ailleurs, et ça paraît un peu particulier, mais que j'ai un ami que j'ai rencontré peu de temps après l'invasion à grande échelle, et qui m'a dit, mais Alexandra, tous les États européens se sont construits à travers la guerre. La manière d'asseoir notre État, c'est peut-être de passer par la guerre. Donc il y a cette conscience-là qui nous ramène peut-être un peu longtemps en arrière. Et donc pourquoi les Européens décident finalement d'accepter la candidature ? Et après on va très vite, puisque décembre 2023, on ouvre les négociations. Alors qu'on a tardé avec la Macédoine du Nord, l'Albanie, etc. Parce que l'Ukraine défend les valeurs de l'Union européenne et parce que le projet russe est anti-européen. On est dans la déconstruction de l'Union européenne. La division de l'Union européenne, mais sa déconstruction. Et par ailleurs, on a tendance un peu à l'oublier, mais l'Union européenne, c'est quand même un projet de paix. Son projet, c'est le projet premier, ce qui lui joue, à mon avis, un certain nombre de tours, puisqu'on veut appliquer absolument ce projet initial, hein, du rapprochement franco-allemand, etc. On veut le précipiter dans différents endroits et que c'est compliqué, mais c'est important de l'avoir en tête. Alors, quelques mots peut-être sur les libertés politiques en temps de guerre. Alors, Moi, je trouve, en tous les cas, que les Ukrainiens, là où ils sont absolument admirables, c'est que à la fois, il y a tout ce mouvement de résistance, mais on ne mesure peut-être pas suffisamment, je pense, ici, on parle beaucoup de ce qui se passe sur le front, à quel point cette société politique est vivante. C'est-à-dire, il y a du débat politique en Ukraine, une réflexivité sur ce qui est en train de se passer, ce qu'ils sont en train de construire, en train de vivre. Donc on suit les deux, en tous les cas, moi, je suis les deux à la fois, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire. Notamment, je travaille sur la mémorialisation de la guerre, et en même temps, leur réflexion sur ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils vont devoir faire et comment ça s'articule et les problèmes que ça pose. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, en Ukraine, on a une loi martiale. Personne conteste la loi martiale, hein, en tant que telle. Elle n'est pas contestée. Il y a eu tout ce débat sur les élections. 80% des Ukrainiens sont pour qu'il y ait des élections une fois la guerre terminée. Pas combien de temps ça durera. Hein. Mais nous, aujourd'hui, là, on parle du mandat de Zelensky qui aurait expiré en Ukraine. Ça ne fait aucun débat. Des élections ne peuvent pas être organisées aujourd'hui en temps de guerre. Les conditions ne sont pas réunies, ni pour faire campagne, ni pour mettre de l'argent dans les élections, ni pour faire participer les soldats, etc. Donc ça, c'est un point important. Par contre, ce qui est discuté, c'est par exemple la presse. A été mis en place en Ukraine un marathon télévisuel au début de la guerre. Alors là aussi, un petit paradoxe, par exemple. Quand Zelensky, qui a été élu quand même, je le rappellerai, en 2019, sur une promesse de paix avec la Russie, et se retrouvant quelques mois après son élection avec des manifestations devant l'administration présidentielle et des pancartes indiquant non à la capitulation. Parce que on pensait qu'il pourrait être trop laxiste vis-à-vis de Moscou. Hein, quelle concession il va faire ? C'était la grande peur. Il y a 80 associations qui avaient fait une pétition avec une liste de points rouges, de lignes rouges à ne pas dépasser pour le président. Je pense que Zelensky doit s'en souvenir, qui est très attentif d'ailleurs au sondage, comme beaucoup d'hommes politiques, y compris en temps de guerre. Sur cette promesse de paix. Et il avait interdit trois télévisions pro-russes qui appartenaient à Medvedchuk, je passe, un oligarque pro-russe, etc. Et à cette occasion-là, les associations de défense de la liberté d'expression s'étaient insurgées. Ah, ça y est, la liberté d'expression commence à être menacée. Vous voyez, c'est-à-dire que même sur cette question-là, ça suscitait quand même une certaine réflexion. Et aujourd'hui, c'est le marathon télévisuel qui est critiqué. Et il y a toute une réflexion sur l'état de guerre, la loi martiale, c'est une chose. Il faut veiller à la non-concentration des pouvoirs entre les mains du président. On en parle pour la presse, on en parle au Parlement, où il y a des députés qui disent « le Parlement est en train de se transformer en une chambre d'enregistrement ». Donc vous avez aujourd'hui toute cette réflexion, et peut-être sur le monde académique, juste pour faire...
Une question sur les libertés politiques. Est-ce que les Ukrainiens, encore une fois cette expression est réductrice, se sont insurgés de la même façon que sur la liberté de la presse quand ont été interdits les partis russophones, trois partis qui représentaient à eux, je crois, 18%, ils avaient fait 18% en 2019 lors des législatives, à eux trois?
Trois, oui, peut-être.
Ils ont été interdits dès le début de la guerre. Est-ce que ça avait, c'est-à-dire, est-ce que c'est que la liberté de la presse qui pose question, la liberté politique, ou ça n'a plus cours ce débat-là en temps de guerre ?
Moi, justement, je pense qu'en fait, la guerre, elle va rebattre les cartes. C'est d'autres, vont apparaître d'autres types de divisions, qui sont liées d'ailleurs à la guerre. Où vous étiez, on les voit d'ailleurs là en ce moment. Hein. Moi, je discutais l'autre jour avec une réfugiée qui était en train de me dire « Ah, on est en train de nous accuser d'être des traîtres ». Et voilà, donc il va y avoir de toute façon une réflexion par rapport à ça. Pro-russe aujourd'hui, c'est ça ne peut plus exister. Et en fait, on n'a pas jugé les personnes sur leur affiliation partisane au moment de l'invasion à grande échelle. On les a jugés sur leurs actes. C'est-à-dire ceux qui ont lâchés, et il y en a un certain nombre, c'est-à-dire il y a des députés qui ont quitté ces partis avant qu'ils soient interdits. Si je prends le maire de Mariupol, qui était soi-disant, c'est pour ça que le terme pro-russe est extrêmement problématique, même si je l'utilise moi-même, et j'ai pu l'utiliser, parce que pro-russe, ça ne veut pas dire être vouloir administrer par les Russes. Pro-russe, dans certains cas, ça voulait dire « moi j'ai envie que mon entreprise ait les plus bas droits de douane pour pouvoir exporter en Russie. » Ou « moi je veux pouvoir, en tant que travailleur, aller travailler à Rostov sans avoir de visa pour aller en Russie. » Donc en fait, le maire, je pense au maire de Mariupol, mais aujourd'hui le maire de Kharkiv, c'est quelqu'un qui a très vite pris fait et cause, enfin qui a donné la loyauté à l'État ukrainien. Je l'ai suivi un tout petit peu au début du conflit. C'était une position, je dirais pas qu'il a effacé, parce que je pense qu'il y a des choses qui reviendront, sans doute. On rappellera à certains hommes politiques leur passé. Mais là, en tous les cas, c'est la loyauté à l'État ukrainien qui a primé. Et j'étais même assez étonnée. J'ai vu très récemment, je crois hier, puisque Kharkiv est bombardé, je voyais une de ses interviews en ukrainien, par exemple, alors que le maire de Kharkiv était un russophone, plutôt. Et Kharkiv est une ville plutôt russophone. Donc ça nous montre aussi ce passage à la langue ukrainienne. Est-ce que ça nous montre aussi c'est intéressant de parler des municipalités, parce qu'il y a une vraie démocratie locale en Ukraine, et que à travers la guerre, qu'est-ce que les citoyens observent ? Ils observent ce que font les acteurs politiques locaux. Les services municipaux qui réparent après les bombardements, les municipalités. Il y a eu tout un processus de décentralisation en Ukraine qui était relativement centralisé. Et après Maïdan, il y a eu de la décentralisation.
C'est l'Union européenne qui a poussé d'ailleurs à ça. C'est l'Union européenne qui a poussé à la décentralisation.
Non,
qui a
demandé... c'est plutôt Maïdan. Enfin, dans Maïdan, si vous voulez, vous avez assez rapidement, au moment de Maïdan, toute une série de, enfin, tout un des experts qui vont discuter de la manière dont on va réformer le pays après. Et c'est eux qui vont faire du lobbying à l'entrée du parlement ukrainien. Pour dire, il faut adopter telle et telle réforme. Nous, les Français, on a essayé de leur vendre nos préfectures, hein, notre modèle des préfectures. Bon, bref. Mais l'impulsion, elle vient de l'idée qu'il faut plus de pouvoir au niveau local la question de la démocratie, j'allais dire, de proximité, et l'idée d'éviter une verticale du pouvoir. Donc, ça passait aussi par le développement d'une initiative. Et il y a eu de la démocratie participative. Ça, je l'ai observé notamment dans certaines villes libérées du Donbass, où il y avait, on associait, mais parce que les citoyens ne laissaient plus faire les élites politiques. Ils étaient là, ils participaient aux conseils municipaux, etc. Alors, sur le monde académique, je voulais juste dire deux choses parce que, voilà. C'est intéressant parce que moi, j'ai presque des contre-exemples. Mais qui ont peut-être évolué, mais qui, notamment par rapport à l'Académie des sciences en Ukraine, où j'ai un ami très inséré dans le milieu anglo-saxon, qui a plutôt tendance à être ostracisé par ses collègues de l'ancienne génération, n'étant pas justement dans une logique de publication, etc., et où il a des difficultés à obtenir une promotion, alors qu'il est reconnu aujourd'hui dans le monde anglo-saxon. Mais bon, c'est juste une anecdote, non, mais enfin, ça veut dire qu'il y a quand même encore un certain modèle qui persiste. Il y a aussi des universités privées en Ukraine, mais elles sont quand même principalement publiques, les universités. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui ce que je perçois en tous les cas, parce que je ne suis pas une spécialiste et je n'ai pas travaillé sur les libertés académiques, par contre, en travaillant sur les questions de construction nationale et politique mémorielle, je suis tout le débat historiographique en Ukraine. Et la question qui se pose avec la guerre, vous voyez bien, c'est quand même, et on en a des échos ici, c'est quand même la nation, la nation, la nation. Tout est regardé à partir de la guerre actuelle. On interprète la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, tout ça, on fait une réinterprétation, et tous les récits commémoratifs, quels qu'ils soient, quelque part, partent du, hein, ça nous rappelle François Hartog et le présentiste, partent du présent. Hein. On part du présent et on réinterprète le passé pour mettre en avant quoi ? L'indépendance, la défense de la patrie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la responsabilité des Ukrainiens dans la collaboration, c'est qui était sur la table, hein. Je tiens à le rappeler, et souvent, par exemple, il y a quand même une vraie différence sur la manière de parler de l'Holocauste en Russie et en Ukraine. En Ukraine, ça existe. C'est dans les livres, on en parle, il y a tout un mémorial à Babi Yar. Voilà. Par contre, il y a une inquiétude, parce que les chercheurs qui travaillent sur la collaboration sont aujourd'hui pas les bienvenus. Ça, c'est sûr. Ils restent en Ukraine, ils parlent, mais voilà, ça peut créer des tensions. Pourquoi mettre ça en avant ? Vous faites le jeu de la Russie. Donc ça, c'est un vrai... je pense que c'est quelque chose vraiment à observer. Aujourd'hui, c'est un débat, c'est discuté. Je suis un petit peu ce débat, notamment à travers les réseaux sociaux, les réponses. Il y a tous ceux aussi qui disent que la décommunisation... Maintenant, il y a une loi sur la décolonisation en Ukraine, hein, depuis 2023. Là aussi, ça relance un vieux débat et ça pose question. Vous avez aujourd'hui des personnes qui disent, voilà, telle sculpture, elle n'est pas politique, elle représente notre passé soviétique ne doit pas être totalement éradiqué. Voilà, c'est un combat. Donc voilà. Pardon.
Non, mais je vous en prie. Non, c'est au contraire très intéressant. Et l'État ukrainien a surtout financé d'ailleurs des recherches sur les mouvements de libération nationale, tout ce qui s'est opposé au communisme et aux nazis, et sur l'Holodomor. C'est un sujet que vous avez beaucoup abordé dans ce livre, Jérôme Heurtaud. Alors, je voulais vous faire parler des conséquences de la guerre sur le monde académique ukrainien, mais on n'aura pas le temps de le faire. Mais simplement, il y a beaucoup d'universités qui ont été détruites, des chercheurs qui sont sur le front. On parle de 900 enseignants qui auraient rejoint l'armée d'une manière ou d'une autre, les étudiants plus encore, mais c'est très difficile aujourd'hui, vous dit Luba Jorgensen, qui vous accorde un entretien, d'évaluer aujourd'hui ce que la guerre a produit dans les façons de penser et de faire, tant en Ukraine qu'en Russie et ailleurs. Néanmoins, ce débat qu'évoquait Alexandra Goujon sur la construction mémorielle, si l'Ukraine rejoint un jour l'Union européenne, elle devra faire un travail de mémoire sur sa collaboration. C'est difficile en pleine guerre de penser de nouvelles constructions mémorielles. Comment ça s'est passé en Pologne, en Hongrie, c'est peut-être, ça peut paraître éloigné du sujet sur les libertés en Europe centrale et orientale aujourd'hui, et néanmoins c'est un poids énorme que cette question a dans toutes les politiques en Pologne jusqu'à l'année dernière et en Hongrie encore aujourd'hui. Oui, c'était une forme de question. Il y a un point d'interrogation à la fin.
Effectivement. Alors vous citiez Luba Jorgensen dans cet ouvrage. J'insiste là-dessus parce qu'effectivement, dans le cadre d'un entretien, elle pose cette question précisément de la manière dont la guerre affecte, pas seulement évidemment les chercheurs en tant que tels. Les universités, certaines sont détruites, beaucoup de cours sont faits à distance, parfois depuis les tranchées. D'ailleurs, il y a des cas comme ça assez célèbres d'enseignants qui, par les voies numériques, donnent cours à distance, mais aussi sur le contenu même des recherches. Et effectivement, une situation de guerre ne donne pas l'occasion d'un pluralisme excessif en matière de recherche académique. Ça me paraît évident. Ça touche toutes les sociétés qui sont plus ou moins directement confrontées à la guerre. Et sans être du tout un spécialiste de l'Ukraine, je suppose que Alexandra, elle a déjà un petit peu dit, effectivement, pourra vous confirmer. En Pologne et en Hongrie, alors c'est vrai que ce sont des pays qui ont été très très largement en première ligne du point de vue des effets de la guerre sur les sociétés européennes. Et j'aime bien cette expression d'enrôlement. Ce sont des pays qui se sont trouvés enrôlés dans la guerre, bien sûr très indirectement, mais en même temps aussi avec des effets directs. Alors on a vu des vagues de migration. En fait, ce ne sont pas des migrations, ce sont des exodes. Comme l'histoire de l'Europe centrale, on a connu plusieurs, un nouvel exode. Extrêmement frappant, très choquant d'ailleurs. Je me souviens quand j'étais à Prague, être allé à la gare de Prague pour voir arriver ces, ces trains remplis de femmes, d'enfants et de vieillards venant de zones confrontées à la guerre, et donc qui débarquaient avec des baluchons sur les quais de la gare de Prague. Donc il y a ces effets, évidemment, en termes d'exode migratoire, ces effets politiques, bien évidemment, on les a déjà un petit peu évoqués, mais aussi il y a nécessairement des effets sur les univers de la production symbolique, pardon de parler un peu comme un sociologue, mais sur les univers intellectuels, dans toutes leurs dimensions, et c'est le cas pour les milieux académiques, donc ça redessine des objets légitimes et puis ça ferme aussi des potentialités, à mon avis, en termes de réflexion, en termes d'analyse politique. Alors je donnerai un exemple. Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu la chance de participer à un colloque à Gdansk, invité par le musée de Solidarność, avec des chercheurs polonais, ukrainiens, et je crois que j'étais le seul français, il y avait aussi un espagnol, je crois. Donc nous étions entre Européens à réfléchir aux effets de la guerre en Ukraine sur les espaces publics européens, et en particulier centre-européens. Et effectivement, beaucoup de débats ont porté sur ce que tu disais, Alexandra, c'est-à-dire le passé de l'Ukraine, relu à travers l'expérience au présent, et donc un prisme d'analyse s'est imposé, c'est le prisme décolonial, alors qui a évidemment qui donne l'occasion de voir des choses qu'on voyait pas du tout auparavant, qui ont, on le voit bien, des effets plutôt positifs en termes de c'est une manière de décloisonner aussi la réflexion sur l'Ukraine, mais avec des effets pervers. Alors, l'un de ces effets pervers, c'était précisément une nouvelle forme de cancel culture, en fait, à destination de tout ce qui rappelle la culture russe en Ukraine. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est moins les discours des collègues ukrainiens sur la nécessité de ne plus lire Pushkin, de se débarrasser de toute la littérature russe du passé. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la complaisance de mes camarades et collègues polonais.
Complaisance qui ont obtempéré, vous voulez dire ?
Oui, oui, qui disaient, donc... oui, absolument, Poutine n'aurait jamais existé sans Dostoïevski. Et mettant au panier, toute la littérature russe, qui est une littérature dissidente, par exemple. Chalamov, qu'est-ce qu'on en fait ? On le jette aussi au panier. Et Solzhenitsyn, qu'en fait-on ? On le jette aussi au panier. Donc, il y avait une espèce de discours assez unanime, assez consensuel, porté par les collègues polonais et les collègues ukrainiens, en faveur à la fois d'une relecture du passé. Donc ça ouvre des perspectives de réflexion, c'est évident. Et en même temps, ça ferme aussi, d'une certaine manière, une partie de cette réflexion.
Ça, vous vouliez dire un petit mot, Alexandra Goujon, là-dessus ? Pushkin a été vraiment nettoyé de la bibliothèque.
Mais c'est pas ça que je voudrais dire. Je voudrais surtout mettre l'accent sur la manière dans quelle mesure les Ukrainiens font cela, en fait. C'est-à-dire que la guerre russo-ukrainienne, quand ils ont commencé, vous avez la période de la décommunisation qui commence en 2015. Ça, c'est une chose. On ne touchait pas, par exemple, aux monuments liés à la Seconde Guerre mondiale. D'accord ? Décommunisation, c'était, on enlevait les Derzhinsky, les Lénine, les hauts gradés communistes. La dérussification, elle a commencé par le bas, c'est-à-dire par des militants, mais aussi par des municipalités, soutenues par des citoyens. Mais qu'est-ce qui se passe chez les Ukrainiens ? Et ça, je pense que c'est important à l'avoir en tête. C'est que les Ukrainiens se sont rendus compte du nombre de monuments, de noms de rues, consacrés aux artistes russes. Et ils se sont rendus compte à quel point ils ne connaissaient pas leur propre culture. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais nous, on n'a pas de peintre, musiciens. Et en fait, aujourd'hui, en Ukraine, c'est très intéressant parce que vous avez même j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, il y avait une exposition sur une dissidente ukrainienne avec un mouvement qu'on ne connaît pas du tout, qui est le mouvement des 60ards, qui est un mouvement dissident en Ukraine en 1960, enfin dans les années 60, qui a essayé justement de parler de la culture nationale, qui a essayé aussi de faire de l'art qui n'était pas de l'art, politiquement correct. Et donc vous avez en fait en Ukraine aujourd'hui une redécouverte de leur propre culture. Donc enlever Pushkin, qui n'a pas été enlevé par exemple d'Odessa, où il est allé, Mais lorsque je discute avec une collègue de Jytomyr, elle me dit « Mais Alexandra n'a jamais foutu les pieds à Jytomyr. » Et et en fait, les statues de Pouchkine, tout comme les statues de Lénine, c'est là où il y en a le plus dans l'ex-Union soviétique, en dehors de la Russie. Donc en fait, pour les Ukrainiens, c'est plutôt une prise de conscience. Mais en fait, nous, on n'a pas de culture. Pourquoi c'est la culture russe ? Plus l'instrumentalisation de Pouchkine à Kherson, où vous avez les affiches de l'occupant qui avec des citations de Pouchkine pour dire que Kherson est russe. Et ça, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire tout ce processus où les Ukrainiens observent le processus de russification qui a été mené, dont ils n'avaient pas forcément conscience, et surtout la redécouverte de leur histoire contemporaine, voire plus ancienne. Et ça, c'est assez intéressant, où le Donbass, l'histoire dans le Donbass, elle commence en 1917, jusqu'à ce que des gens découvrent, des militants découvrent un cimetière désaffecté où il y a des tombes de Belges, Anglais, Polonais, ils se rendent compte que leur ville n'est pas industrielle, n'a pas été créée par les bolcheviks et c'était une ville commerçante. Donc voilà, il y a cette redécouverte du passé. Alors moi, je suis pas une spécialiste de la littérature ukrainienne. Ce que j'observe déjà, ça fait partie de ça un petit peu plus de mon travail, c'est comment la guerre envahit la littérature. Donc en fait, là-dessus, voilà, la guerre, elle est quand même aujourd'hui, c'est les écrivains qui produisent sur la guerre. Plus, ce qui est très important pour eux, c'est tout ce qui est traduit. C'est-à-dire toute la littérature ukrainienne qui est en ce moment traduite à l'étranger. Alors là, vous ne pouvez pas avoir la résonance, par exemple, d'un livre qui a été traduit d'une poétesse ukrainienne et où il y a un livre audio qui est sorti avec la voix de Catherine Deneuve. Hein, ça fait... Oui. Alors ça, vous voyez, ça fait de la résonance dans un certain milieu hein, aussi. Hein, mais ça résonne énormément. Là sur les réseaux je vois sans arrêt Catherine Deneuve avec avec l'insigne ukrainien, c'est vraiment voilà. On prend peut-être pas suffisamment la mesure de l'importance des soutiens étrangers pour eux. Moi je m'en rends compte en fait quand j'y vais. Ils sont là, ils ont vraiment, c'est extrêmement important pour eux de savoir qu'on pense à eux à l'extérieur du pays. Alors sur la multiculturalité. Je pense que c'est très variable parce que j'ai assisté notamment à une visite, à une excursion expérimentale à Lviv hein, du changement de la toponymie. Et assez intéressant parce que le guide parlait du fait que bon, la décommunisation et la décolonisation à Lviv, elle date des années 90, donc il a commencé en disant « il n'y a pas vraiment de nom toxique dans notre... » et après, lors de cette visite, justement, a parlé de tel auteur d'origine juive, etc., à mettre en avant la multiculturalité, voire même à dire, bah, par exemple, à cette statue, il était quand même chercheur du temps de l'Union soviétique. Voilà, c'est compliqué, on peut pas tout, voir tout en noir et blanc. Vous voyez, enfin, il y avait quand même une atténuation du discours. Voilà, donc en ce moment, je ne pense pas que ce soit la priorité. Par contre, il y a des défenseurs de cette multiculturalité. Je parlais de Lviv, il y a à Lviv un centre d'études urbaines, peut-être, je ne sais pas si tu connais Géraud. C'est vraiment un centre qui défend cette idée-là depuis toujours, qui est connu pour ça et qui se bat notamment dans la commission de la décommunisation, voilà, justement pour laisser une place au passé qui ne soit pas centré uniquement sur la nation ukrainienne.
Alors, il y a beaucoup à dire sur un sujet aussi large, mais je vois qu'il est l'heure quand même de vous faire intervenir. Si vous avez des questions à poser à nos trois interlocuteurs, il est grand temps, enfin il est temps en tout cas de les poser si vous en avez. Madame, je vous en prie.
Je suis toujours étonnée, je fais partie de Mémorial France. Et,
merci. Quand on regarde Poutine et Zelensky, l'Ukraine fait vraiment une nation jeune, vivante, et la Russie, ça fait une vieille nation pas vivante. Est-ce que c'est une... je me trompe ou... Je trouve que ça fait un pays vieux, un pays poussiéreux à côté de l'Ukraine qui me paraît plus dynamique. Mais peut-être que je me trompe.
Je sais que je suis en train d'étudier la démographie russe pour une série d'émissions bientôt. Elle est en chute libre, mais je sais, ce n'est qu'un tout petit élément de... Oui, j'ai bien compris.
En fait, ça me permet de revenir un petit peu à la question européenne, ce que vous dites et que j'avais en tête et que je n'ai pas dit tout à l'heure. C'est qu'en 2014, au moment de Maïdan, vous avez des militants, des manifestants qui défilent avec le drapeau européen. Qu'est-ce que ça signifie ? Et en fait, je pense que ça signifie justement... alors, à ce moment-là, la Pologne était moins respectable, mais... politiquement, je veux dire. Mais pour eux, c'était, voilà, le modèle européen, c'est le modèle démocratique. On ne veut pas rejoindre cette Russie. Alors, ils ne l'appellent pas poussiéreuse, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la tête des Ukrainiens, c'est on sait ce que l'Union européenne peut faire. Et on sait que toute la bureaucratie européenne, les normes qui vont entraîner, d'ailleurs, hein, le libéralisme économique européen va avoir des conséquences sociales importantes. Mais on ne veut surtout pas rejoindre la Russie, qui était déjà un régime très autoritaire, qui est devenu, qu'il est devenu encore plus aujourd'hui. Et oui, moi je trouve qu'en Ukraine, il y a même encore aujourd'hui, en fait, il y a de l'innovation. C'est bien sûr. Mais là, quand vous voyez les discussions qu'ils ont, parce que la discussion qu'on a là, c'est les discussions qu'ils ont eux-mêmes sur... Là, j'assistais par exemple à une réunion d'une heure et demie sur le nouveau calendrier national, parce que je travaille là-dessus en ce moment, sur comment il s'est transformé. Il y a eu beaucoup de dates entre 2014 et 2022. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce qu'il y a la guerre et ils ne savent pas quoi mémorialiser, quelle date. Et en fait, les mémorialisations, maintenant, c'est des anniversaires, mais un peu spontanés. De certaines dates, de certains événements, le théâtre de Mariupol, le début de l'invasion, bien sûr, le 24 février. Ils ont toute une réflexion sur ce que ça doit être. Ils ne sont pas d'accord entre eux, hein, sur comment mémorialiser. Donc ça, je trouve que c'est... Et avec une volonté de s'enrichir de ce qui se fait ailleurs. Alors après, le gros problème, c'est les questions de... C'est discuté aussi, de la marchandisation, de la commercialisation, du tourisme noir. Vous voyez, c'est tout ça est, voilà, est à regarder.
Merci. Une question courte sur l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un débat au sein des universités sur les accords de Minsk de 2015 ?
Non. D'abord, ces accords, en fait, les accords de Minsk, pour les Ukrainiens, une grande partie des Ukrainiens, c'est des accords imposés par Moscou, de toute façon. C'est-à-dire, en février 2015, en gros, hein, c'est ce qui se dit, hein, c'est que lorsqu'ils se rejoignent à Minsk, Porochenko, il a le... C'est comme ça qu'on le dit en Ukraine. Pistolet sur la tempe. C'est-à-dire que à partir du moment où l'armée régulière russe est entrée, c'est-à-dire que là, on a vraiment des soldats russes, hein, c'est pas simplement de l'aide militaire. Et là, on a notamment, la Russie va se servir du délai entre l'adoption des accords à Minsk et leur entrée en vigueur quelques jours plus tard, notamment pour mener une bataille à Debaltseve qui va être meurtrière. Donc en fait, pour récupérer un bout de territoire en fait. Donc, si vous voulez, la question des accords de Minsk n'est pas discutée. Quand même, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les Ukrainiens étaient persuadés que la Russie n'envahirait pas l'Ukraine. Ça, il n'y a pas que Zelensky. Hein. Les Ukrainiens étaient persuadés que si la guerre reprenait, ce serait dans le Donbass. Ils n'ont jamais imaginé que Kiev serait bombardé. Ils n'ont jamais imaginé les charniers de Boutcha ou d'Izium. Donc pour eux, il y a deux temps dans la guerre. Il y a l'invasion avec les bombardements sur l'ensemble du territoire et Boutcha. Boutcha, c'est un tournant dans la guerre parce que pour eux, c'est une logique d'extermination. Pour eux, les Russes aujourd'hui veulent les exterminer. Alors vous savez, les accords de Minsk là-dedans sont très très loin. Très très loin.
Tu as insisté sur le pragmatisme d'Orban, et je crois qu'il faut vraiment insister sur le pragmatisme de ces offres politiques conservatrices qui sont certes par certains aspects qui partagent des convictions idéologiques, c'est évident, mais qui, pour d'autres, en réalité, s'adaptent au contexte et à leur situation nationale. C'est toute la raison pour laquelle il y a autant de différences entre ces différents pays. Alors, pour la Hongrie et en matière de liberté académique, ce que je trouve le plus inquiétant, je ne sais pas où ça en est, mais tu auras peut-être la réponse, Clara, c'est l'accord avec l'université Fudan en Chine. Parce que la Hongrie est quand même le cheval de Troie de la route de la soie académique. Le pays qu'a visité Xi Jinping en quittant la France, c'est la Hongrie, avant d'aller en Serbie. Deux soutiens à Vladimir Poutine, par ailleurs. Et quand tu dis qu'il y a une fascination pour les puissants, c'est pas les puissants en tant que tels, mais c'est comment un pays comme la Hongrie, qui est un petit pays, qui n'est pas satisfait de ses frontières, Trianon, on va pas parler de ça, mais qui n'accepte toujours pas les accords de Trianon, en tout cas qui réactualise une critique de Trianon, dont une partie de la population vit dans des pays limitrophes, qui est un petit pays en Europe, dont la puissance économique est quand même tout à fait relative, eh bien, Orban au moins théorise, pas si c'est l'idéologie, mais au moins théorise la nécessité pour ce pays, pour exister, non pas dans la cour des grands, en tout cas pour exister aux yeux de ceux qui sont grands dans la cour, de démultiplier des nouvelles formes d'allégeance, que ce soit avec la Chine, la Russie, et tout en restant dans l'Union européenne, parce que c'est aussi important pour eux. Voilà. Et l'Iran. Voilà.
Il est 19h, donc on n'a plus beaucoup de temps, mais madame, je vous en prie, si, on a le temps pour vous écouter.
Comment concilier l'anticommunisme?
Oui, la communiste de la terreur, Raza, du musée de la terreur, et puis l'orientation pro-Poutine actuelle de Orban. Alors, on va pas le faire en 3 secondes, donc je vais pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il y a quand même quelque chose. Et puis l'anticommunisme, bon. Il y a eu la révolution de 56, je vais aller très vite, hein. La révolution de 56, et puis de toute façon, les Hongrois étaient quand même très anti-russes, puisqu'on pense que c'est les Russes qui ont écrasé la révolution de 48, alors qu'en réalité, c'est bien aussi l'armée autrichienne, mais ça, c'est un autre débat. Et donc, 56, ben oui, mais après, Kadar, il a changé. Kadar, il y a eu quand même toute la période de Kadar, et les Hongrois, ils ont bien accepté cette période Kadar. C'était pas... Voilà. Donc, quand est arrivé en 90, Antal et compagnie, ben on disait, c'est le nouvel Horthy. Alors qu'évidemment, par rapport à Orban aujourd'hui, c'était tout à fait différent. Et moi, je pense, pour la faire très courte, qu'on ne peut pas répondre en 3 minutes à la question, parce que c'est un sujet vraiment très complexe. Je pense que les Hongrois se sont bien accommodés de la période Kadar numéro 2 et qu'il y avait moins de dissidents qu'ailleurs. Ça prenait d'autres formes. Ensuite, y a eu une recomposition politique. Je la fais vite, mais ce que je veux dire, moi, c'est que Orban, comme a dit Clara, il est quand même très opportuniste. À un moment donné, il fait alliance avec la Turquie. Il dit qu'on était des amis au XVIe siècle, alors, voilà, depuis le XVIe siècle, alors qu'en réalité, quand même, Soliman le Magnifique, il a envahi la Hongrie, en 1826, etc. Donc, il y a ce que dit Clara. Il fait des petites bombes, il change de politique, etc. Mais il y a quand même un aspect que j'aimerais... Moi, je ne suis pas capable d'en... C'est quand même l'aspect, il n'y a pas que simplement qu'il s'adosse à Poutine parce que c'est un puissant, et puis qu'effectivement, avec le contexte de guerre, si Poutine gagne ce qu'il croit, eh bien évidemment, la Hongrie sera protégée, les Slovaques, enfin, Fico pensait la même chose, bon, il n'est pas mort, bon. Mais il y a la question de la corruption et la question de l'argent. C'est quand même la Hongrie qui abrite le seul pays qui abrite la grande banque russe, etc. Puis là, il y a toute cette question d'économie souterraine, de la corruption et puis de où on loge son argent, etc., qui mériterait quand même d'être prise de front. Oui, c'est plus récent.
Ah oui, mais Poutine, oui. Ça remonte à plus.
Mais bien sûr. Mais il y a ce paradoxe, effectivement. Je ne pense pas que les Hongrois soient pro-russes, mais par contre, ils sont peut-être plus contents d'être sous le parapluie Poutine que d'avoir la guerre à leur porte. Et ça, c'est autre chose. Mmh.
Voilà. Merci, madame.
Merci, je pense qu'on...
Ah oui, d'accord, on n'arrête pas de les allumer, les éteindre. Merci beaucoup. Je pense que voilà, je suis vraiment désolée si d'autres questions étaient en train d'affleurer à vos lèvres. Je vous remercie beaucoup d'avoir surtout vous participé à ce débat et d'y avoir assisté. Et voilà, ça m'a inspiré plein d'émissions futures. Merci à vous.